tout pour investir, le coach.
Notre coach fiscal ce matin, c'est François-Xavier Seur. Bonjour cher François-Xavier.
Bonjour Lorraine.
Rebonjour pour ceux qui nous écoutent en direct depuis le début de l'émission, puisque vous étiez déjà dans notre partie actu. Vous êtes gestionnaire de patrimoine chez Terrae Patrimoine. Avec vous, on va être sioux. On va réfléchir à comment éviter, si c'est possible, un contrôle de l'administration fiscale. Attention, hein, tout ce qu'on va dire est tout à fait légal, tout à fait réglo. On vous donne des conseils parce que tant qu'à faire de se faire contrôler, si on peut l'éviter, c'est toujours mieux. Ça économise du temps, hein, parce qu'un contrôle n'amène pas forcément un redressement. Mais bon, il y a pas mal de domaines. On va s'intéresser à la fois à des sujets immobiliers, on va parler de DIFI, on va parler de DIFI immobilière, mais on va aussi parler de donations ou encore de trains de vie suspects.
C'est large. C'est très très large.
On n'a pas un timing infini néanmoins. Mais on va démarrer peut-être avec quelque chose de très simple qui concerne tous ceux et celles qui nous écoutent. Peut-être des fortes variations de revenus. Ça attire l'œil du contrôleur.
Après, il faut bien rappeler que c'est pas parce que... ce qui attire l'œil du contrôleur doit attirer l'œil du déclarant. C'est ça qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'avant que ça allume une lumière à l'administration fiscale, il faut que ça allume une lumière au déclarant, de se dire « cette année, je modifie quelque chose d'important dans ma déclaration ». Il faut toujours comparer les déclarations d'année en année et se dire « cette année, par exemple, je me distribue 50 000, 200 000, 300 000 de dividendes ». C'est quelque chose qui... est inhabituel par rapport aux années passées, donc ça peut effectivement poser question. Cette année, je me distribue beaucoup plus de revenus en tant que chef d'entreprise. C'est des questions qui vont plus concerner les indépendants.
Oui.
Parce que les fortes variations de revenus, quand on est salarié, normalement, il n'y en a pas. C'est l'intérêt du salariat. Ça va plutôt concerner les indépendants. Et ça, c'est quelque chose qui est très regardé. Les revenus, du coup, de l'activité professionnelle et les revenus du patrimoine. Il y a notamment quelque chose qui fait une grosse alerte. Alors là, grosse alerte rouge plus, c'est quand vous avez des revenus fonciers et que vous ne posez pas de déclaration d'impôt sur la fortune immobilière.
Ça, c'est suspect.
C'est suspect dans le sens où, quand vous avez, par exemple, 20 000 ou 30 000 euros de revenus fonciers et que vous vous dites que, par exemple, ça rapporte 3% net, ça veut dire que vous avez entre 700 000 et 1 million d'euros de patrimoine, au moins, qui est loué. Donc, certes, c'est 1,3 million net de tout impôt, le seuil de déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. Mais si jamais vous avez plusieurs dizaines de milliers d'euros de revenus fonciers et qu'il n'y a pas de déclaration IFI,
ça va être bizarre.
Ça pose question.
Il y a quelque chose qui peut poser question aussi, c'est tout ce qui est train de vie suspect. Racontez-nous.
Train de vie suspect, en fait, la question, c'est quelle est l'adéquation entre le train de vie et les revenus déclarés. Si, par exemple, vous faites la une de la presse People la semaine prochaine sur votre yacht, je ne sais pas où en France, eh bien, le fisc est en droit de se demander si les revenus que vous déclarez sur votre déclaration de revenus sont en adéquation avec le train de vie que vous affichez à la une de la presse People. Donc ça, c'est quelque chose qui est véritablement regardé. Hein. Le fisc aujourd'hui, l'administration fiscale d'une façon générale, regarde la presse et la presse People. Et à côté de ça, il faut voir qu'il y a autre chose qui est très regardée aujourd'hui et de plus en plus, et la loi de finances pour 2024 le permet, c'est les réseaux sociaux.
Oui, donc c'est la presse People, mais c'est aussi Instagram, en fait.
C'est de moins en moins la presse People et de plus en plus Instagram, en fait. Mais il faut bien voir que la loi de finances 2024 autorise maintenant les contrôleurs à se servir de tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux contre les personnes qui sont contrôlées. Donc c'est à charge, pour ainsi dire. Et il faut voir qu'ils ont aussi le droit, depuis 2024, depuis la loi de finances 2024, de créer des faux comptes, de contacter les personnes titulaires des comptes pour leur soutirer des informations. Donc, il faut être extrêmement attentif à ce que l'on publie sur les réseaux sociaux. Et très sincèrement, si jamais le yacht, il est loué pour le week-end et que vous dites que c'est le vôtre et que vous le mettez sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas une bonne idée.
Ou alors en compte fermé. Parce qu'il y a quand même des options pour ne pas déballer toute sa vie.
Je maîtrise mal cette partie-là. Je maîtrise plus la partie fiscale. Mais le train de vie suspect, c'est quelque chose qui est très particulier. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment regardé, qui déclenche des vrais contrôles, des contrôles vraiment poussés. Ouais. Et il faut voir qu'il y a aussi autre chose, c'est que l'administration mêle les informations qui remontent, par exemple, de la CAF, aux informations qui remontent sur la déclaration de revenus. Si jamais vous dites que vous demandez des allocations à la CAF, vous avez une allocation CAF et à côté de ça vous déclarez des revenus, il y a quelque chose qui à un moment va pas matcher, ça c'est clair.
Attention à la différence de données entre les organismes, notamment la CAF ou l'URSSAF, vous l'avez dit. Il y a quelque chose qui concerne ceux et celles qui nous écoutent, qui sont notamment peut-être investis en crypto-monnaie, mais qui aussi simplement tradent sur des plateformes qui ne sont pas forcément françaises. Il y a tout le sujet des comptes à l'étranger.
Oui, Alors, les comptes à l'étranger, il faut bien voir qu'il faut tout déclarer. Et ça, c'est extrêmement important. Si jamais vous avez des comptes, on peut en citer quelques-uns, les plus connus, tout ce qui est, par exemple, les banques, les N26, ça c'est allemand, donc il faut le déclarer. Les PayPal, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de monde qui a des comptes, qui ont des comptes PayPal, il faut les déclarer. Et tout ce qui est crypto, vous avez des Binance, voilà, des grandes plateformes. Tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir déclarer. Il ne faut pas oublier que si jamais ce n'est pas déclaré, c'est 1500 euros par contre, plus les 3 années précédentes. Donc, ça peut faire une addition assez salée pour des gens qui ont 2-3 comptes crypto qui ne sont pas forcément déclarés.
Donc attention, on se fait retoquer sur 4 années glissantes.
4 années glissantes, 1500 euros par compte, 1500 euros par année. Ça fait vite une petite facture quand même. Il faut être quand même extrêmement prudent à ça. Sur la case, alors, ça compte donc tout ce qui est compte à l'étranger, compte bancaire, donc compte bancaire, compte crypto, et les assurances vie à l'étranger. On a tendance à oublier parfois, alors c'est plutôt des gros patrimoines, mais tout ce qui est assurance vie luxembourgeoise.
Absolument.
Il faut les déclarer. Donc ça, sont les cases 8UU, 8TT. Alors, quand vous êtes sur votre déclaration, et ça vous ouvre une page qui est la page 3916, le formulaire 3916. Et ce formulaire, il faut le compléter bien en détail. Les dates d'ouverture, les mouvements qu'il y a eu, le titulaire, est-ce que c'est un compte professionnel, personnel, c'est toutes ces infos-là qu'on va vous demander.
Voilà, on vous aide à identifier les endroits où les contrôles peuvent s'arrêter de manière attentive. Je précise que quand même, les agents recrutés en 2023 sont de plus en plus nombreux, hein, et qu'ils sont de plus en plus formés.
Exactement.
Pour s'adapter aussi à nos manières de
250 vivre. Agents recrutés l'an dernier, 350 cette année, 25% de contrôles fiscaux en plus sur les hauts patrimoines, et un usage de plus en plus poussé de l'intelligence artificielle. Et ça, on l'a vu sur ces fameuses piscines, on en a beaucoup parlé des piscines. 140 000 piscines qui ont été trouvées.
140 000 piscines détectées grâce à l'IA.
C'est énorme. Et en fait, c'est 40 millions d'euros de taxes foncières en plus. Et autant vous dire qu'on ne va pas passer à côté, parce que la taxe foncière, ça finit dans la poche des communes. Et les communes, c'est terriblement tendu sur le plan politique, parce que les finances des communes sont extrêmement tendues. Donc 40 millions d'euros par an, c'est quand même pas quelque chose qui est négligeable.
Et oui, 40 millions d'euros par an de taxes foncières avec ces piscines, c'est pas une paille.
Ça augmente la valorisation.
Il y a toute une dimension immobilière à laquelle il faut faire attention pour éviter un contrôle fiscal. Dans l'ordre, il y a la défiscalisation immobilière, il y a minorer son IFI, ça c'est rarement une bonne idée, mais il y a aussi tout ce qui est loué en meublé, en vous pouvez nous brosser ces trois sujets rapidement.
Alors, la défisquimo, c'est pas le fait de faire de la défisquimo qui va vous déclencher un contrôle fiscal. Généralement, c'est de mal déclarer votre défiscalisation immobilière. Parce qu'en fait, c'est quand même relativement complexe de le déclarer.
Les plafonds de revenus.
Les plafonds. Moi, typiquement, je connais. J'ai eu le cas qui est arrivé à mon cabinet de quelqu'un qui avait acheté un Pinel. Le Pinel, en fait, entre le moment où. Non, pas du tout. Alors, vraiment, je vais pas encore dire du mal du Pinel à votre antenne parce que sinon, je vais encore me faire allumer. Mais c'est quelqu'un qui avait acheté du Pinel et qui. S'était projeté sur un niveau de loyer. Et entre le moment où il a acheté et le moment où l'opération a été réalisée, le plafond a été abaissé. Sauf que lui, il a loué au premier plafond de loyer qu'il avait prévu. Ce qui fait que l'inspecteur est arrivé et lui a dit « Vous ne louez pas votre Pinel au bon montant. » Il a perdu son crédit d'impôt Pinel et il s'est fait redresser derrière. Donc ça fait quand même une petite facture un petit peu élevée. Donc il faut faire attention à la défisquimo, il faut surtout bien la déclarer. Vous parliez des biens qui sont loués meublés en SCI, c'est juste qu'une SCI à l'impôt sur le revenu n'est pas compatible avec un bien loué meublé. Une société civile, c'est une activité civile réputée commerciale sur le plan fiscal. Donc ça permet d'amortir le bien, et en fait une personne qui va faire ça, au bout de quelques années, le fisc va venir et va dire « Vous n'avez pas le droit d'avoir l'impôt sur le revenu, donc vous perdez vos abattements, et vous vous retrouvez à payer l'impôt sur les sociétés.
Ouais. »
Donc ça peut être un redressement assez important, il faut faire attention.
Ah oui, vous nous dites ça, attention, louer un meublé en SCI, ça n'est pas possible. Le meublé c'est bien, mais ça n'est pas compatible.
En SCI, à l'impôt sur les sociétés, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de souci. C'est à l'impôt sur le revenu que ce n'est pas possible.
Attention à cette nuance. Parfois, on fait des erreurs et on peut se rattraper. Mais simplement, les erreurs aussi attirent l'œil du contrôleur ou de la contrôleuse.
Alors, c'est ça. Les erreurs, on a le droit à l'erreur. C'est ça, c'est ce fameux droit à l'erreur alors, duquel on a entendu parler. Mais il faut voir que ce droit à l'erreur, ça veut dire que le fisc part du principe que la personne qui fait sa déclaration est de bonne foi. On estime donc que la charge de la preuve est du côté de l'administration fiscale. C'est à l'administration fiscale de prouver que le contribuable est de mauvaise foi. Mais un droit à l'erreur ne signifie pas une incitation à l'erreur. Une erreur volontaire, c'est de la fraude. Quelqu'un qui a déjà été condamné n'aura pas droit à l'erreur. Pour être clair, les Balkany, ils n'ont plus droit au droit à l'erreur, pour être très très clair. Donc, il y a cette présomption de bonne foi qui est extrêmement appréciable de la part de l'administration fiscale, mais voilà, il ne faut pas en abuser. Il faut que ça soit des erreurs réelles.
Il y a aussi attention à tout ce qui va être prêts familiaux. Ça aussi, c'est une nuance qu'il est toujours bon de rappeler.
Alors, les prêts familiaux, vous faites rarement, le fisc vous contrôle rarement pour ça, sauf si c'est vraiment énorme. Un prêt familial, c'est quoi? C'est le fait de faire des mouvements de sommes dans la famille, aux sœurs, aux parents, aux enfants. Et en fait, soit on fait un présent d'usage, donc c'est un cadeau, soit on fait une pension alimentaire, donc c'est déclaré, soit... Effectivement, c'est un prêt familial. Et un prêt familial, quand vous versez plus de 5000 euros à quelqu'un de votre famille, vous êtes censé l'enregistrer. Il y a un formulaire pour l'enregistrer. Et en fait, généralement, le fisc ne vient pas vous voir pour ça. Il vous rajoute ça dans le cadre d'un contrôle fiscal.
Oui,
global.
C'est la petite cerise sur le gâteau.
C'est fromage et dessert. C'est un peu le souci, c'est que quand vous vous faites contrôler, généralement, il y a une alerte. Si on va plus loin, parce qu'on voit qu'il y a des raisons d'aller plus loin, on va tout creuser. Et ça, ça viendra avec en supplément.
Voilà, ce qui attire l'œil du contrôleur fiscal doit d'abord attirer votre œil à vous de déclarant ou de déclarante. Merci beaucoup François-Xavier.
Avec plaisir.
Jean-Yves qui a toujours le bon mot, qui nous suit, qui m'écrit sur LinkedIn, qui me dit « Pour éviter un contrôle fiscal, il faut mettre une bâche de couleur verte sur sa piscine. » Merci Jean-Yves pour ce bon conseil. Plus sérieusement, j'ai Philippe aussi qui nous suit, qui m'écrit sur l'adresse directe @bfmbusiness.fr. Le fisc lui demande pourquoi il n'a pas déclaré une cession de valeur immobilière avec une banque pour un montant d'environ 2 millions d'euros et produit l'IFU correspondant. Et il nous dit « Je n'ai jamais eu de compte-titres dans cette banque, juste une assurance vie. » Le fisc lui dit qu'il a reçu cette information de la banque et que c'est à lui, notre auditeur, de rectifier cette information avec la banque. Porosité entre les informations de la banque et du fisc, même si la banque n'est pas à l'origine, n'est pas en contrôle de cette somme.
Il y a nécessairement tout ce que vous avez. Alors, la banque, dans le cas présent, si jamais il y a une assurance vie, la banque est dans un rôle de courtier. Donc, c'est l'assurance, l'assureur qu'il y a derrière, qui remonte les informations à l'administration fiscale. Et effectivement, si vous faites des opérations immobilières, alors vous pouvez avoir des produits immobiliers dans une assurance vie. Donc, deux choses. Déjà, généralement, c'est à déclarer à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, il y a un rapport entre les deux. Et si jamais vous faites une opération de retrait, la plus-value remonte normalement d'une façon automatique sur votre déclaration de revenus. Donc, je n'ai pas le détail du cas, mais à mon avis, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Il y a une question d'impôt sur la fortune immobilière et il y a probablement une question d'IFU, donc d'imprimé fiscal unique, qui doit être fourni normalement par l'assureur et qui aurait dû transiter par la banque. Mais normalement, les infos sont pluguées entre le fisc et l'assureur.
Merci François-Xavier d'avoir répondu aux débeautés à Philippe, qu'on espère avoir éclairé. Merci pour vos beaux conseils François-Xavier Sœur, notre CGP du lundi avec nous régulièrement sur notre antenne. Vous avez des questions, on a parfois les réponses, vous pouvez nous écrire, l'adresse est directe @bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn en message privé. Je vous lis.